Cette semaine aura été marquée au Vatican par la visite historique du patriarche copte orthodoxe d'Alexandrie, Tawadros II. 40 ans après la seule rencontre de ce type, Chenouda III avait été reçu en effet par Paul VI en 1973. Retour sur le sens à donner à cette rencontre avec Christian Canuyer, égyptologue spécialiste des coptes à l'Université de Lille.
Il est certain que, nonobstant l'importance de la rencontre qui avait eu lieu entre Chenouda III et Paul VI en mai 1973, et qui avait été conclu par un accord christologique reconnaissant que les deux églises avaient, malgré la rupture de Chalcédoine en 451, la même foi dans le même Christ. Le dialogue œcuménique entre les deux églises n'a pas été très fécond ces quatre décennies. Il faut bien dire que l'église copte a opté durant cette période pour une certaine frilosité œcuménique. Or, on sait que le pape Tawadros II, au contraire, veut redynamiser le dialogue œcuménique en Égypte, l'ouverture de l'église copte sur les autres églises. Et donc, cette rencontre revêt de ce point de vue-là, au moment où l'Égypte, bien sûr, est à la croisée des chemins, elle revêt une importance capitale.
Nous nous sommes penchés aussi sur la situation de Madagascar. Après deux semaines de discussions et de consultations, les chefs des quatre églises chrétiennes ont dévoilé une proposition pour aller de l'avant. Elle implique une nouvelle transition, une nouvelle feuille de route. Monseigneur Ramarosson, évêque de Farafangana, nous expliquait.
Les propositions exprimées, la vie de la nation doit continuer et que ce n'est pas du ressort de l'Église de mettre en place un régime ou une structure d'État, ni de reporter ou d'avancer les dates des élections. Par contre, l'Église a le devoir de proposer une éthique politique et même nous avons exhorté les quatre chefs de réunir les candidats à la magistrature suprême pour parler avec eux d'une charité de bonne conduite pour que les élections soient vraiment transparentes, claires, légales.
Les tensions étaient loin d'être apaisées au Bangladesh, avec des manifestations de dizaines de milliers d'islamistes à Dhaka, la capitale. Ces islamistes réclament une loi punissant le blasphème, une vieille revendication qui permet à ce groupe de ramener la question de la religion dans la politique sur le devant de la scène, comme nous l'expliquait Jérémy Caudron du CERI à Paris.
C'est sur cet enjeu, je pense, que vont se jouer les prochaines élections, c'est-à-dire savoir quelle place on devrait donner à la religion dans l'État du Bangladesh, sachant que jusqu'à présent, la religion n'avait pratiquement aucune place dans l'État, en fait. C'était pas absolument pas le problème. Mais les partis religieux ou politico-religieux tentent, à chaque échéance électorale, de faire avancer leur agenda politique.
Et les rebelles kurdes du PKK commençaient, eux, à se retirer de Turquie, une nouvelle étape franchie dans le cadre d'un processus de paix. Le but, mettre fin à près de 30 années de conflit. Les combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan se dirigent donc vers l'Irak, mais le risque de déstabilisation le plus grand pèse, en fait, sur la Syrie, comme nous l'expliquait Samin Akgonoul, chercheur au CNRS et professeur à l'Université de Strasbourg.
En Irak, la question est quasiment réglée dans la mesure où on appelle le Kurdistan irakien, mais en réalité, c'est devenu véritablement un État quasi indépendant. On voit combien le pouvoir central en Irak est très très faible et le nord d'Irak est devenu un État quasi indépendant, même s'il n'est pas reconnu. Donc, du point de vue du nord d'Irak, je ne pense pas qu'il y aurait une déstabilisation. En revanche, il peut y avoir un changement de situation pour le nord de la Syrie, dans la mesure où, au nord de la Syrie, il y a des militants kurdes qui se battent de temps en temps contre le pouvoir de Assad. Alors, ces militants du PKK transférés au nord d'Irak, s'ils sont transférés pour aller soutenir les Kurdes de la Syrie, là, en Syrie, la situation risque d'être changée. Mais ce ne sont que des spéculations pour l'instant.
La Russie, il y a un an, Vladimir Poutine en redevenait le président, un troisième mandat qui se passe dans un contexte moins serein que les précédents. Vladimir Poutine a désormais face à lui une classe moyenne qui manifeste, la même qui a profité du bien-être économique du pays dans les années 2000 quand il était déjà au pouvoir. Nous entendions Aude Merlin, professeur à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste de la Russie.
Une classe moyenne russe avait bénéficié dans les années 2000 du mieux-être économique et social russe global. Il a réussi à consolider une sorte d'adhésion populaire autour de sa personne, parce qu'il était l'homme pendant les mandats duquel tout cela avait été fait. Alors, en 2011-2012, ce contrat social devenait un petit peu caduque, parce que ces citoyens-là se sont mis à prendre conscience du fait qu'ils avaient aussi des droits civiques et politiques et que ne pas respecter leur vote dans les urnes, c'était une violence.
Enfin, le Front Polisario célébrait cette semaine ses 40 ans d'existence, un double anniversaire, celui de la création du mouvement indépendantiste et celui du déclenchement de la lutte armée pour la libération de l'ex-Sahara espagnol, aujourd'hui administré à 80% par le Maroc, mais toujours considéré comme un territoire non autonome par les Nations Unies. 40 ans après, l'ONU peine toujours à rapprocher les deux parties et le Front Polisario continue d'afficher une farouche détermination à continuer le combat. Régine Villemont, spécialiste du Maroc et du Sahara occidental, nous disait que la mission d'observation de l'ONU doit aujourd'hui adapter son mandat.
Jusqu'à présent, la MINURSO est essentiellement une mission de paix, chargée donc d'organiser ce fameux référendum recommandé par la communauté internationale depuis 1966, ce référendum qui n'a toujours pas eu lieu. Et la mission de paix n'a pas, comme beaucoup d'autres missions de paix des Nations Unies, d'attribution de surveillance du respect des droits de l'homme. Le Polisario, les Sahraouis, les associations solidaires réclament d'assurer une protection et un respect des droits de l'homme et la sécurité et la libre expression des Sahraouis là où ils se trouvent.